France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui sur le père Alexandre Maine, prêtre orthodoxe né en 1935 et mort en 1990, une grande figure de l'orthodoxie au XXe siècle que l'on connaît souvent par une phrase célèbre qui vient de lui, « Le christianisme ne fait que commencer ». Nous avons par le passé consacré plusieurs émissions au père Alexandre et cette fois-ci nous sommes en compagnie du père Jean Guaita, prêtre orthodoxe qui a traduit un des livres du père Alexandre, « Jésus, le maître de Nazareth », une biographie de Jésus-Christ parue aux éditions Nouvelle Cité. Père Jean, bonjour.
Bonjour Alexis.
Pour commencer cet hommage à Alexandre Maine, une première réflexion sur lui et son héritage.
C'était un homme remarquable, c'était, comme vous venez de le dire, quand même une personnalité majeure, je dirais, dans l'Église russe, sans aucun doute, vers la fin du siècle, il a été tué en 1990, comme vous venez de le dire, mais c'était le prêtre peut-être le plus connu, le plus populaire à ce moment-là dans l'Église russe, mais aussi en tant qu'intellectuel. C'est un intellectuel, je dirais, majeur de l'histoire aussi de Russie en général. Et en même temps, c'était un homme très, très intéressant, très ouvert, très humain. Et j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance en 1988, donc c'était juste seulement deux ans avant sa mort et son martyr. Mais si je suis en ce moment un prêtre de l'Église orthodoxe russe, cela n'est pas sans lien avec la personnalité du père Alexandre.
Il faut dire sur vous, mon père, que vous êtes né en Italie.
Oui.
L'île de Sardaigne.
Oui, tout à fait.
Vous avez fait vos études en Suisse et que vous avez servi pendant très longtemps comme prêtre à Moscou.
Oui.
Ce qui a donné peut-être un lien encore plus fort avec le père Alexandre. Il faut dire aussi qu'en 1990, il a eu une mort absolument terrible. Il a été assassiné à coups de hache près de sa paroisse. Et c'est une chose évidemment qui a marqué les gens de l'époque et qui marque toutes les générations
à venir,
tellement le souvenir est douloureux. Alors, on va, si vous voulez bien, maintenant regarder les étapes, les grandes étapes de sa vie, parce que c'est une vie, évidemment, très riche.
Oui. Donc, il est né en 1935 dans une famille juive, mais son père, donc, c'était des juifs de Russie depuis des générations, son père n'était pas croyant. Sa maman s'intéressait au christianisme depuis des années, et justement, elle a pris la décision au moment de la naissance de son fils aîné, Alexandre, de se faire baptiser en même temps que son fils. Donc la maman et l'enfant ont été baptisés le même jour. Ils étaient dans l'église des catacombes, comme on dit, c'est-à-dire, après la Révolution, il y a eu cette tentative de la part des autorités bolcheviques et après soviétiques de liquider complètement l'Église orthodoxe. Et donc, une partie de l'Église est sortie, disons, dans les catacombes, et c'était le cas justement des communautés que le père Alexandre a fréquentées pendant son enfance, mais c'est des communautés qui étaient liées à l'héritage spirituel, par exemple, des Starci de Optina, ou alors du père Jean de Kronstadt, etc. Puisqu'il célébrait la liturgie dans des isbas, dans des maisons de campagne et tout, dès le début, le père Alexandre a conçu l'Église tout d'abord comme communauté des fidèles. Donc pas tellement l'Église en tant que bâtiment, de temple, si vous voulez, et aussi pas seulement le moment, disons, de la prière communautaire, de la liturgie et tout, mais tout d'abord la communauté. Ça, c'est une des choses qui l'ont caractérisé. Et ensuite, il a eu plusieurs paroisses. Il a été ordonné diacre en 58 et prêtre en 1960. Et là, peut-être, il faut souligner le fait que c'était l'époque de du dégel, qu'on appelle, de Nikita Khrushchev, qui était un moment positif au point de vue de l'idéologie, donc d'ouverture. Mais Khrushchev a persécuté l'Église. C'était la deuxième vague de persécution. Mais c'était des persécutions tout à fait différentes, basées, disons, sur la pensée. Donc, l'idée, c'était depuis très longtemps, la science a déjà démontré qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune divinité, donc tout ça c'est des blagues, pour des personnes ignorantes et tout. Alors le père Alexandre, encore tout jeune, il a senti, disons, un appel en quelque sorte à la prêtrise, mais il a pris la décision qu'il fallait tout d'abord avoir une instruction laïque. En tant que, donc il aimait la biologie et il a pris cette décision d'étudier la biologie, ce qu'il a fait. Il a fait tout le cours universitaire, il a été exclu de l'université juste avant la défense de son mémoire, à cause du fait que le KGB avait su qu'il était croyant, qu'il était lié à un évêque clandestin, etc.
Et pourquoi avait-il voulu faire des études aussi laïques, scientifiques ?
Il l'a voulu faire parce que justement il avait le sentiment du temps, de l'époque où il vivait, et il comprenait qu'il fallait discuter avec des gens cultivés, et que l'Église devait justement se présenter de cette manière. Le père Alexandre disait qu'il entrait dans une forêt, ou alors dans un musée, par exemple, de paléontologie, comme on entre dans une église, et que la nature a été son premier texte de théologie. Donc, vous voyez, pour lui, c'était un homme amoureux de la vie, la biologie c'est justement ça, et il voulait, il comprenait qu'il fallait avoir une discussion, disons, avec des gens qui étaient élevés justement dans la propagande de l'État, donc qui étaient sûrs que, ben voilà, la science déjà a démontré que Dieu n'existe pas, et lui il disait, ben non, moi je suis bien sûr que, et justement en tant que, disons, personne qui connaît bien la science, il était en quelque sorte élève, on pourrait dire, de Teilhard de Chardin, qu'il connaissait bien. Mais j'oserais dire que si, pour Teilhard de Chardin, le Christ est ce point oméga, disons, le point d'arrivée de la foi, de la philosophie, etc., pour le père Alexandre, c'est plutôt un point alpha, parce que justement, il disait, le christianisme ne fait que commencer. Alors justement, avec tout l'arsenal, disons, de sa culture, de son instruction, il menait une catéchèse pour des intellectuels. Alors quelqu'un l'a appelé le missionnaire du tribut des intellectuels, en disant qu'il s'agit, alors tribut des intellectuels, c'est une peuplade assez sauvage, particulièrement sauvage, pourrait-on dire.
Une catéchèse organisée sous forme de rencontre dans un salon, etc., ou vraiment dans une...
Alors, sous forme de rencontre, c'était absolument impossible en époque soviétique, c'était interdit par l'État, mais il l'a quand même fait parce qu'il a beaucoup écrit. Il a écrit plus qu'une vingtaine de livres qui expliquent donc un chemin, disons, vers la foi. Et il les a publiés. D'abord, c'était le samizdat, comme on dit, c'est-à-dire c'était des livres qui étaient tapés à la machine, disons, et qui se diffusaient de manière clandestine. Et ensuite, ils ont été imprimés en Belgique, en langue russe. Et ils arrivaient dans les valises des diplomates ou alors des touristes étrangers. Ils arrivaient en Union soviétique et ils avaient quand même, ils étaient assez bien répandus, en dépit de la censure de l'État. Donc, si vous voulez, il a eu une... disons, nous avons aujourd'hui un héritage intellectuel du père Alexandre, qui est dû à ses livres, mais aussi un héritage, je dirais, pastoral, parce que c'était un prêtre qui a su organiser autour de lui des communautés très vivantes, en époque soviétique, imaginez-vous. C'était des communautés en bonne partie composées par des intellectuels, des acteurs, des écrivains, des musiciens, etc. Il a bien connu Solzhenitsyn, il a baptisé la veuve du poète Mandelstam, il a baptisé le poète Ebard, disons, de l'intelligentsia soviétique Galitch. Donc, autour de lui, il avait beaucoup d'intellectuels, mais dans les paroisses de la campagne moscovite qui lui ont été confiées pendant son ministère, ces intellectuels étaient à côté des babouchkas de la campagne. Et une chose qui m'a frappé, parce que j'en suis un témoin, donc j'ai connu ces communautés, c'était le fait que c'était une vraie communauté vivante, mais composée par des gens absolument différents.
Le mélange social n'était pas un problème, c'est ça ?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis peut-être alors, puisque vous dites les étapes de sa vie, donc il a écrit plusieurs choses pendant des décennies, des années 60 jusqu'à sa mort. Mais surtout, quand la législation a changé en Union soviétique, et cela s'est passé en 1980, 1987, puisqu'en 1988, il y avait le millénaire du baptême de la Russie. Donc les autorités soviétiques, et c'était déjà Gorbatchev, avec sa perestroïka, glasnost, etc. Donc on parlait de démocratisation, il fallait changer quelque chose. Et surtout qu'il y avait ce millénaire, donc on comprenait qu'il y aurait des choses, par exemple ici à Paris, à l'Institut Saint-Serge, ou alors à Rome, les catholiques feront des conférences, des choses comme ça. Donc il fallait faire quelque chose en Union soviétique aussi. Et c'est là que la législation a changé en matière de religion. Donc l'État a commencé à rendre à l'Église les lieux de culte, etc. Et c'est là que le père Alexandre a commencé, si vous voulez, ses sermons publics, de manière, c'était ce que moi j'appelle le feu d'artifice final de sa vie. Parce que les deux dernières années, c'est justement quand je l'ai connu, il passait son temps, donc chaque semaine, imaginez-vous qu'il plusieurs fois par semaine, il tenait des cours, des conférences publiques, etc., qui étaient bondées de monde, parce qu'il y avait une soif, un intérêt à la religion incroyable de la part de la population. Donc, c'est du genre, alors, la fabrique, disons, l'usine, octobre, rouge, donc avec ses noms soviétiques, etc., organise un cours de philosophie russe du 19e siècle tenu par le prêtre, archiprêtre Alexandre Men. Et ces conférences étaient, comme je viens de le dire, bondées de monde. À la fin, le père Alexandre répondait à des questions qui n'étaient pas prévues. Donc, il a fait ça donc pendant les deux dernières années. Imaginez-vous qu'à la fin, il était tellement connu que la télé d'État, c'était le premier canal, donc la première chaîne de télé donc soviétique, pas seulement russe, lui a proposé une émission. Donc quelqu'un lui a dit, écoutez Père Alexandre, vous êtes tellement connu et c'est tellement intéressant ce que vous dites, qu'on vous donne une vingtaine de minutes pour une émission. Et vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il y a deux restrictions. Il ne faut pas utiliser le mot Dieu, il ne faut pas prononcer le nom Jésus-Christ. Alors, imaginez-vous, le père Alexandre a accepté, et nous avons encore aujourd'hui cette émission étonnante à la télé d'État soviétique, où il n'utilise pas le mot Dieu, il ne prononce pas le nom Jésus-Christ, mais c'est un sermon puissant et qui reste encore aujourd'hui.
Je crois que c'est le moment pour faire notre pause de musique et de prière aussi. C'est un chant à l'honneur de la Mère de Dieu, une composition de Mikhail Ipolitov Ivanov. C'est donc un compositeur russe qui est mort en 1935, c'est-à-dire l'année même de naissance du père Alexandre Men. Et nous écoutons cet extrait par le chœur de chambre Legge Artis sur les directions de Boris Abalian. Et après ce beau chant donc de Mikhaïl Ipolitov Ivanov, en l'honneur de la Mère de Dieu, nous revenons à notre conversation avec le Père Jean Guaita sur le Père Alexandre Men, un prêtre orthodoxe donc qui a trouvé la mort dans des circonstances tragiques, comme on vient de le dire, à Moscou en 1990. Alors, le Père Alexandre n'est plus là, mais il reste beaucoup de choses de lui, mon père. Et je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu d'abord. Il y a plusieurs catégories de livres. Hein. Il y a des choses, des textes de lui.
Oui.
Il a fait une biographie aussi de Jésus-Christ,
oui,
que vous avez traduit,
oui, oui,
et en français. Et aussi, il y a un livre sur lui, une biographie de lui, que nous avions présenté à ce même micro il y a 2 ans. Alors, si vous voulez bien prendre un peu, et surtout les grandes lignes de sa pensée, enfin, qui est-il à travers ces livres?
Oui, oui, oui. Alors, le Père Alexandre, tout au long des pratiquement 30 ans de son ministère, à côté de l'activité, disons, pastorale dans les paroisses, il a beaucoup écrit. Donc, par exemple, il a écrit un entier dictionnaire de la culture biblique. Et c'est un travail, imaginez-vous, tellement important, tellement étonnant. Il s'agit de 3 tomes assez grands, c'est un dictionnaire, qu'il voulait le défendre comme travail de doctorat, etc. Mais justement, l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, à l'époque, n'a pas cru qu'une personne pouvait écrire un travail de ce genre, parce qu'il a dit, c'est le travail d'un institut et pas d'une personne. Mais c'était tout à fait écrit par le Père Alexandre. Ensuite, il a conçu et écrit une œuvre en 6 tomes, qui s'appelle « À la recherche de la voie, la vérité et la vie » et qui trace en quelque sorte l'histoire de l'évolution de la pensée et du sentiment religieux chez les différentes civilisations humaines. Donc ça commence par, disons, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la foi, la nature de la foi, si vous voulez, c'est les sources de la religion, un premier volume, qui existe entre autres en français, qui a été traduit. Ensuite, il parle de la magie, la superstition et le monothéisme. Dans un 3e volume, il nous montre les religions de la Chine et de l'Inde. Dans un 4e, il parle des prophètes, et dans un 5e, il arrive justement aux les prophètes majeurs, donc, et ensuite donc la prédication de Jean-Baptiste juste avant la naissance du Christ. Alors justement, le livre que moi j'ai traduit, c'est une biographie du Christ, Jésus le Maître de Nazareth, qui est en même temps un livre tout à fait important au point de vue de la culture, disons, biblique, etc. Mais c'est écrit un peu comme un roman. À mon avis, c'est le livre le plus important de ce que le Père Alexandre a écrit. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses, donc, interprétation de l'Apocalypse, et surtout, après sa mort, ses disciples ont fait de recueil de ses conférences, leçons publiques, etc., qui ont été publiées et aussi en partie traduites.
Voilà, et donc les grands points de sa pensée, enfin, il doit quand même se...
Oui, alors les grands points, tout d'abord, je dirais, c'est une vision unitaire de la culture humaine et de la foi. Ce qui est, si vous voulez, en quelque sorte, on peut trouver un parallèle chez Maritain, par exemple, mais dans la philosophie russe, il y a Vladimir Solovyov qui a beaucoup parlé de ça, donc l'unité, si vous voulez. Le Père Alexandre, un peu comme une autre victime de prêtre intellectuel, mais au début de l'époque soviétique, le Père Pavel Florensky, qui a été aussi tué, malheureusement, en 1935 peut-être. Et les deux nous montrent une vision de synthèse. Et surtout, ils soulignent, si vous voulez, la proximité de la culture et du culte. Le mot culture vient du mot culte. Donc, il y a comme un lien avec la religion et avec la foi. Ensuite, c'était un homme qui était très ouvert au dialogue. Imaginez-vous que juste avant sa mort, il avait organisé des colloques publics, de dialogue entre chrétiens orthodoxes et musulmans. Il a commencé à faire ça, c'était tout à fait en 1989, c'était quand même un des premiers qui ont commencé à faire ça. Et il a et aussi les idées de la tolérance, de l'ouverture, etc. pour le père Alexandre n'étaient pas, disons, dues à la pensée laïque en alternative, en quelque sorte, à l'Évangile, mais bien au contraire. Là, par exemple, dans le livre que j'ai traduit, « Jésus le maître de Nazareth », le père Alexandre nous dit que les idéaux de justice, fraternité, liberté, abnégation, la foi en la victoire finale du bien, en la valeur de la personne humaine, bref, tout ce qui s'oppose à la tyrannie, au mensonge et à la violence, puise parfois inconsciemment à l'eau vive de la source évangélique. Donc pour lui, l'Évangile et le Christ étaient en quelque sorte le début d'une culture nouvelle. Et d'ici aussi son idée que le christianisme ne fait que commencer. Je crois que ça, ce sont les points les plus importants de la pensée d'Alexandre Maine.
Et juste en un mot maintenant, parce que nous terminons, le temps ne permet pas d'aller plus loin. Qu'est-ce qui reste de lui actuellement? Bon, il y a les livres. Mais est-ce qu'il y a un courant ou il y a quelque chose?
Oui, quand même. Imaginez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à la fois grâce aux livres et aux témoignages du père Alexandre, mais pas seulement à son époque. Il y a des gens qui, maintenant, il s'est passé 35 ans depuis son martyre, il y a des gens qui continuent à lire ses livres et qui arrivent à la fois grâce à ce que le père Alexandre a écrit en époque soviétique.
Ben alors nous allons faire de même, mais j'espère nos auditeurs aussi. Là, il y aura une bibliographie des œuvres du père Alexandre Maine, dont le livre que vous avez traduit. Mon père, c'était donc le père Alexandre Maine, 1935-1990, avec le père Jean Guaita. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Jean-Louis Deloncle. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Un bon dimanche à tous.